Alors on va prier pour débuter. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, un moment pour plonger nos regards dans ta parole et être nourris, abreuvés, enseignés par toi. Tu avais pour aujourd'hui des mots, des paroles, des sujets que tu voulais aborder. Nous te demandons donc, Seigneur, de faire comme il te plaît et comme tu sais approprier. Répands ta grâce sur nous, ouvre notre intelligence, notre compréhension à ta parole et permets-nous de pleinement saisir tes plans, tes projets et ta volonté pour chacun d'entre nous. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère et qu'en toute chose que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on lit notre verset thème pour cette année et pour précisément les 50 jours dans lesquels nous sommes actuellement. Ésaïe au chapitre 61, le verset 1 et la première phrase du verset 2. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc, le verset thème pour cette, ou la partie thème pour cette semaine, c'est « Il m'a envoyé pour ». Dans le verset 1, la troisième phrase, « Il m'a envoyé pour ». Et cette semaine, ça nous donne donc l'occasion de nous arrêter sur une thématique importante qu'on a intitulé « L'appel de Dieu ». Donc, on a vu déjà deux aspects importants lundi et mardi. Lundi, on a parlé de l'appel en soi, de comment cet appel se manifestait et ce que ça entraînait chez nous. Hier, on a parlé de la préparation suite à la réception de l'appel de Dieu, comment on se prépare à répondre à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, parce que le terme principal de cette semaine, c'est « envoyer », le terme « shalak » qu'on a expliqué lundi. Donc aujourd'hui, on parle du départ vers l'exécution du mandat. Donc lundi, réception du mandat, l'appel de Dieu. Mardi, préparation à exécuter le mandat. Et aujourd'hui, le départ vers l'exécution du mandat. Très souvent, lorsque on parle de l'appel de Dieu, on revient régulièrement à la question de l'appel d'Abraham. Alors, je ne ferai pas exception à la règle. J'aurais pu utiliser d'autres passages. J'en ai étudié plusieurs en me préparant pour aujourd'hui. J'ai étudié l'appel des apôtres, ce qu'on a appelé la Grande Commission, qu'on retrouve notamment dans Marc au chapitre 16. J'ai étudié la question de l'appel de Timothée, un peu comme on a fait hier. Paul qui instruit Timothée sur le service. J'ai étudié de façon plus particulière aussi l'appel même qui était adressé à Paul lors de sa conversion et dans les temps qui ont suivi. Mais on va revenir aujourd'hui donc à la question de l'appel d'Abraham. Et au lieu de retourner dans l'Ancien Testament, on va étudier cet appel-là, mais dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, du verset 8 à 11. En fait, 8 à 10. Hébreux 11, du verset 8 à 10, et je lis pour vous. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi, je répète ce verset, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc ce matin, on va faire ressortir 7 points importants, inhérents à cet appel et à ce départ que Abraham va vivre. Il part de Ur en Chaldée et il s'en va donc vers la terre promise. La première chose qu'on nous dit dans ce chapitre, et vous vous rappellerez que le chapitre 11 d'Hébreux, c'est ce qu'on appelle le temple de la renommée des héros de la foi. Le chapitre des héros de la foi. Donc au verset 8, on commence en nous disant « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. » Premier ingrédient dans tout départ, la foi. Il n'y a aucun départ qui se fait sans la foi. Il n'y a aucun départ qui se fait en maîtrisant pleinement tout ce qui se passe. Nous partons tous et nous devons tous partir lorsque le Seigneur nous appelle par la foi. Il y a toujours une bonne part du départ, si on me laisse cette redondance au moins audio, cette part de foi, cette part d'inconnu, cette part de confiance que nous faisons ou que nous offrons à Dieu en dépit de notre méconnaissance précise de là où il nous envoie, de là où il nous amène. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, impossible de lui être agréable. Donc, par conséquent, il nous est aussi impossible de travailler pour Dieu sans la foi. Si nous sommes appelés à enseigner, si nous sommes appelés à servir Dieu, si nous sommes appelés à être des représentants de son royaume, et là on parle que ce soit vers le ministère ou vers le service au sein de l'Église, que ce soit dans la vie de tous les jours, nous devons mener notre chemin avec comme ingrédient principal la foi. Et la Bible nous dit dans le premier verset du chapitre 11 que la foi est une ferme assurance. Donc la foi n'est pas quelque chose où je dis « Ah, j'essaie aujourd'hui de lui faire confiance. » Non, c'est cette confiance viscérale que nous avons envers Dieu. La foi est aussi une décision. Certains pensent que la foi est tout simplement un don qui nous vient du ciel. Dieu fortifie notre foi par l'action de sa droite, par l'action de sa main, par la confirmation de sa présence, par le fait qu'on puisse sentir et percevoir sa présence, mais la foi est aussi une décision, particulièrement lorsque les choses vont moins bien, particulièrement lorsque les choses sont plus difficiles. Nous prenons la décision de rester ferme dans ce que nous avions reconnu comme étant la vérité, dans ce que nous avions cru, nous décidons de nous y maintenir. Donc lorsqu'on part comme Abraham, un peu à l'aventure, lorsqu'on part comme Abraham, en obéissance à la voix de Dieu, nous devons le faire avec la foi, cet ingrédient primordial à toute croissance spirituelle et à toute relation intime avec Dieu. Donc, premier ingrédient dans notre départ, la foi. Pas la présomption, pas « je présume que la volonté de Dieu est que », mais c'est « je sais que la volonté de Dieu est ceci ». Je ne connais pas nécessairement l'ensemble des détails, je ne connais pas nécessairement la destination, mais je sais parce qu'il me l'a confirmé, parce que j'en ai eu des preuves, parce que le Seigneur m'a parlé clairement, je sais que le pas que je m'apprête à faire est celui que Dieu veut que je fasse. Donc, premier ingrédient, la foi. Toujours dans le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Deuxième Deuxième ingrédient important dans le départ vers l'exécution du mandat, l'obéissance. On part par la foi et par obéissance. Dieu nous a demandé, donc nous faisons. Nous ne présumons pas de ce que Dieu veut, effectivement, et on ne part pas pour forcer la main de Dieu. On n'amène pas Dieu dans notre volonté, mais nous entrons dans la volonté de Dieu. Trop souvent, il arrive que des gens partent à l'aventure et après ça, ils demandent si c'est la volonté de Dieu. Après ça, ils demandent que leur chemin soit béni de Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Nous entendons la voix de Dieu, nous recevons cette parole avec foi, nous prenons une décision avec foi et nous entreprenons le chemin par obéissance. Mais pour que j'obéisse, il faut donc que ça soit clair dans ma tête ce que Dieu demande. Et pour que j'obéisse, il faut donc que je sois dans la volonté de Dieu et non pas à l'aventure en espérant éventuellement que ma volonté et la volonté de Dieu cadre ou que Dieu se plie à ma propre volonté. Donc, premier ingrédient, la foi. Deuxième ingrédient, l'obéissance. Mais on nous dit que c'est par la foi, effectivement, qu'il obéit et il partit. Il y a trop de gens, ça c'est notre troisième ingrédient, le départ. Il y a trop de gens qui se réjouissent d'avoir été appelés par Dieu, mais il semble qu'après l'appel de Dieu, il y a comme une cessation de la suite des choses. C'est comme si je suis tellement content que Dieu m'ait appelé que j'arrête mon cheminement là. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cet homme avec qui je parlais il y a maintenant au-dessus de 30 ans et qui me disait à l'époque, j'ai pas de nouvelles de lui depuis, mais il me disait à l'époque, il y a 25 ans, donc maintenant ça ferait quoi, 55 ans environ, il y a 25 ans, Dieu m'a appelé. Et il me parlait de ça avec tellement d'émotion, avec tellement de joie, mais lorsqu'on continuait notre conversation, on se rendait compte que suite à l'appel de Dieu, il n'y avait pas eu de réponse de sa part. Il n'y avait pas eu la mise en action de ce départ qui était demandé par Dieu. Donc, à un moment donné, effectivement, lorsque Dieu nous appelle, il y a un départ. Et le départ, ça veut dire que je quitte jusqu'à un certain point ce qui est habituel pour moi. Je quitte peut-être une zone de confort. Je quitte peut-être quelque chose qui m'est agréable, dans lequel je me sens bien. Vous savez, en tant qu'être humain, on est des êtres d'habitude. Donc, quand on change nos habitudes, ça peut être assez dérangeant. Ça peut amener un certain désarroi. Ça peut amener un certain inconfort. Mais tout départ vers la nouveauté va amener cet inconfort-là. Donc, il ne faut pas prendre l'inconfort. Il ne faut pas prendre la crainte qu'on peut avoir de façon innée et naturelle par rapport à la nouveauté, comme quoi Dieu n'est pas là-bas, Dieu n'est pas là-dedans. On s'entend, lorsque je suis passé à travers le périple de la maladie, c'était pas un périple qui était agréable. Je savais que j'étais exactement là où Dieu me voulait, donc j'avais la foi, j'avais la paix, mais en même temps, ce que je vivais n'était pas nécessairement agréable. Donc, le côté agréable de la chose ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. Et le côté désagréable de la chose ne veut pas dire non plus que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. En fait, le côté agréable ou désagréable ne dit en rien que tu es ou que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Effectivement, à l'occasion, le diable va venir te confronter. Et il fait en sorte que les choses sont désagréables. Et à l'occasion, il vient te berner avec un calme plat des vagues, avec un temps de trêve qui semble particulièrement paisible. Mais si toi, tu n'es que dans les sentiments, si tu n'es que dans les émotions, tu vas te dire « Ah, je ressens une paix, donc le Seigneur est là assurément. » La volonté de Dieu, lorsque les disciples se sont retrouvés dans la tempête, c'était qu'ils traversent la mer, qu'il traverse la mer de Galilée ou le lac de Galilée. Et ça n'a pas empêché la tempête. La tempête était désagréable. Jésus était calme, les disciples étaient nerveux. Est-ce que parce qu'il y avait la tempête, ils étaient hors de la volonté de Dieu? Non, puisque le Seigneur leur avait dit « passons de l'autre bord ». Donc le fait qu'il y ait la tempête ou qu'il n'y ait pas la tempête ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu ou que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu dois retourner à ce que Dieu t'a donné, à ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi aussi je dis aux couples quand ils vont se marier, vous devez vous assurer que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et je dis la même chose quand quelqu'un démarre dans l'œuvre de Dieu, lorsque quelqu'un commence à servir, je leur dis, tu dois être sûr que Dieu t'a demandé de faire cela. Tu dois être sûr de la volonté de Dieu, parce que quand la tempête va venir, le doute va venir avec. Donc, tu veux t'assurer que ce doute n'est pas d'emprise sur toi. Tu veux t'assurer que le questionnement n'est pas d'emprise sur toi et que tu puisses, malgré les apparences et malgré les circonstances et malgré la tempête autour de toi, continuer fidèlement dans l'œuvre de Dieu sans perdre du temps à t'arrêter pour te demander « suis-je vraiment dans la volonté de Dieu ou pas ?» Donc, on ne marche pas par les sentiments, on marche par la foi. Et la foi est une ferme assurance. Donc, nous avons cette assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce que nous avons entendu. Donc, tu ne peux pas baser ta foi simplement sur une présomption. Ta foi doit être assise sur quelque chose de clair que Dieu a clairement déclaré. Et particulièrement pour le départ dans l'œuvre de Dieu. Tu dois être sûr que le Seigneur non seulement t'y appelle et que le Seigneur t'y conduit effectivement et que tu es dans le temps même du départ. Rappelons-nous lorsqu'on parlait de l'appel de Paul et de Barnabas, cet appel-là s'est passé 14 ans après la conversion de Paul. Donc ça fait 14 ans que Paul est à l'église d'Antioche, 14 ans qu'il est en train de se former et à un moment donné, au moment approprié, bien qu'il y ait eu des prophéties préalablement à son égard, particulièrement lors de sa conversion, lorsque le serviteur de Dieu va venir prier pour lui pour que les écailles tombent et que son aveuglement, sa cécité cesse, il va lui dire « j'ai des œuvres à accomplir à travers lui ». Donc, mais pendant 14 ans, il va rester à Antioche où il va apprendre, où il va commencer à exercer, jusqu'à ce que Dieu dise clairement, voici le temps pour que Paul sorte. Donc, tu dois avoir cette connaissance de la volonté de Dieu, mais au moment opportun, tu dois sortir. On ne doit ni être en avance sur le temps de Dieu, pas plus qu'il ne nous faut être en retard sur le plan de Dieu. Toujours dans le verset 8, on nous dit, « Et il partit, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. » Il partit pour un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Donc, il faut savoir que peu importe ce que Dieu t'amène à faire, il y a une récompense qui vient avec. Est-ce que nous sommes ouvriers simplement pour la récompense? J'espère que non. J'espère que tu ne t'engages pas auprès de Dieu en disant « ben là, j'ai hâte qu'il me paye mon dû, j'ai hâte qu'il me paye mon tribut, j'ai hâte qu'il me donne mon salaire ». Je comprends que la bénédiction de Dieu, que le salaire, que la provision de Dieu est tout le temps quelque chose qu'on recherche, mais est-ce que tu es capable de servir Dieu malgré une provision qui pourrait tarder par rapport à ta pensée? Est-ce que tu pourrais servir Dieu malgré un héritage qui tarde? Et lorsqu'on lit l'héritage qu'Abraham va avoir, l'héritage profond, certains pensent que c'est la terre de Canaan. Non, ça va plus loin que ça. L'héritage que Dieu lui donne, la Bible nous dit que c'est une multitude qui dépasse les grains de sable de la mer. Et ça ne peut pas être Israël. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des écrits, on se rend compte que c'est l'ensemble de la famille des croyants. Donc, toi et moi faisons partie de cet héritage. Est-ce qu'Abraham l'a vu? Non. Si on veut même parler de son héritage au niveau de sa postérité, il a dû attendre au-dessus de 100 ans avant de voir, au-dessus de l'âge de 100 ans, avant de voir cet héritage poindre à l'horizon. Est-ce que tu es capable d'attendre? Vas-tu attendre? Vas-tu focusser sur cet héritage que Dieu a dit qu'il allait te donner? Ou vas-tu, comme Abraham l'a fait à un moment donné, chercher des moyens palliatifs? On sait comment il est allé vers la servante de son épouse Sarah. Il y a eu Ismaël, mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse, n'était pas l'héritage que Dieu avait pour lui, l'héritage étant celui qui devait sortir de Sarah, étant Isaac. Donc, est-ce que tu es capable de travailler en attendant l'héritage que Dieu te donne, ou vas-tu chercher des moyens palliatifs? Ça, c'était le quatrième point. Donc, foi, obéissance, un départ, un héritage qui est promis. Toujours dans le verset 5, il partit vers une terre qu'il ne connaissait pas, sans savoir où il allait. Donc, une destination inconnue. La foi ne fait pas que tu connaisses tous les détails. Parfois, effectivement, Dieu va te donner le point d'arrivée, mais il ne te dit pas nécessairement le chemin qui mène jusqu'à ce point-là. Parfois, tu as une perception, tu as une certaine compréhension de là où Dieu va t'amener, mais foncièrement, lorsque tu le regardes agir et lorsque tu le regardes te mener, tu te rends compte au fur et à mesure du chemin que tu ne pouvais pas prévoir ce chemin-là. Donc oui, dans l'œuvre de Dieu et dans la réponse à l'appel de Dieu, il y a aussi une partie d'inconnu. La foi vient en œuvre à ce moment-là en disant « Je sais en qui j'ai cru, je sais qui je suis, je lui fais confiance » parce que je sais qu'il me mène à bon port. Je peux ne pas savoir quel est le bon port. Je peux ne pas savoir quelle est la destination ultime vers laquelle il me mène, mais je lui fais confiance, je sais qu'il me mène au bon endroit. Un peu comme les disciples, comme on mentionnait tout à l'heure dans la barque, lorsque la tempête se lève, une fois que Jésus a calmé la tempête, il se tourne vers les disciples, il leur dit, mais pourquoi vous avez manqué de foi? Foncièrement, il est en train de leur dire, ben, je vous avais dit qu'on passait de l'autre bord. Alors, pourquoi vous avez eu peur? Je vous disais qu'on allait arriver sur la côte de l'autre endroit. Alors, pourquoi vous vous êtes mis à craindre pour votre vie puisque je vous avais dit qu'on passait de l'autre bord? Les vents pouvaient se lever, la tempête pouvait faire rage, mais moi, je vous avais dit qu'on allait passer de l'autre bord, et je vous avais donc dit que vous ne péririez pas dans l'eau, que vous ne sombririez pas, mais qu'on arriverait tous ensemble de l'autre côté. Donc, la foi fait en sorte qu'on démarre notre chemin, bien que ce chemin ne soit pas toujours très clair et toujours connu tout à fait. Je vous dirais que je suis très content que Dieu ne m'ait pas montrer tout le chemin que j'avais à passer à travers mon ministère. J'ai eu le décès d'un père spirituel, j'ai eu la succession à assurer à ce père spirituel, j'ai eu la maladie qui est venue après, différents changements qui sont passés dans l'église, dans le ministère, des gens qui ont quitté, des gens qui sont arrivés. Tout cela, si j'avais connu tout cela à l'avance, probablement que j'aurais paniqué, et Dieu le savait. Peut-être que si j'avais tout su cela à l'avance, peut-être que j'aurais essayé de trouver par moi-même des méthodes humaines pour pallier à chacune de ces situations. Lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il va mourir, Pierre se lève en disant « Non, 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 il n'y en est pas question, ça se passera pas comme ça, c'est pas vrai que tu vas mourir ». Tu vas être le roi, tu vas t'asseoir sur le trône à Jérusalem. Il n'est pas question que tu meurs. Mais en disant, il n'est pas question que tu meurs, il n'est pas question que tu passes par ce que tu essaies de nous annoncer en ce moment-là, ben, Pierre était en train de s'opposer au chemin, à la volonté que Dieu avait tracée pour Jésus en tant que serviteur ici-bas sur terre. Et ce faisant, on s'oppose donc à la volonté de Dieu. Donc parfois, il est aussi nécessaire qu'on navigue un peu dans l'incertain, tout simplement en faisant confiance à Dieu. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi ne veut pas dire que je connais tout, mais vivre par la foi veut dire que je fais confiance à Dieu malgré tout et en dépit de tout. Que mon focus, mes yeux, mon regard sont encore fixés sur Jésus en dépit des circonstances et des situations qui pourraient vouloir me dire que je suis en train de voguer vers l'erreur. Donc, destination inconnue. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Le sixième point, donc, pour ce matin, ils vont s'établir dans des terres étrangères. Ils vont s'établir dans des terres étrangères. On aurait pu penser, ouais, mais il a un héritage, il a une terre promise, et il va s'établir dans cette terre promise comme étant le but ultime, l'endroit ultime. Abraham, et on va nous le dire par la suite, que pour eux, c'était une terre passagère, qu'ils étaient tout simplement de passage ici-bas sur terre, parce qu'ils attendaient, je vais prendre une gorgée, parce qu'ils attendaient la cité céleste. Il nous faut comprendre une chose. Lorsqu'on démarre dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on est dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans un service à l'Église, que ce soit dans un ministère, comme on a fait la différence lundi matin, nous ne sommes pas en train de bâtir notre empire. Nous ne sommes pas en train de se bâtir une place sécure, une place où je vais m'établir pour le restant de l'éternité et je suis fin arrivé, on va dire. Je suis arrivé à mes fins, je suis arrivé au but ultime. Abraham va vivre toute son existence dans des tentes. Quelle est la notion pour nous ce matin? C'est que oui, l'établissement dans des terres étrangères, savoir que même ce qu'on va parvenir à accomplir ici-bas sur terre, ce n'est pas le but ultime. Il faut rester dans cet état où nous pouvons effectivement prendre notre tente et la déplacer ailleurs. Non pas qu'on soit dans un sempiternel « je déménage et je déménage et je déménage et je déménage » où on a une vie de nomade et une vie de pèlerin constant d'un ministère à l'autre, d'une église à l'autre. C'est pas du tout ça qu'on est en train de parler. Mais savoir que je ne suis pas en train d'établir ma nation, je ne suis pas en train d'établir mon royaume. Ce que j'attends, ce que j'aspire est encore au-delà du point où je peux être arrivé. Ce à quoi j'aspire se trouve tout simplement de l'autre côté de l'éternité, dans l'autre partie de l'éternité, lorsque je serai avec Christ face à face avec lui pour l'éternité. D'ici là, ici-bas sur terre, je continue mon pèlerinage, je continue à avancer selon ce que Dieu me guide. Trop souvent, lorsqu'on arrive à un lieu de confort, on va commencer à s'établir et ça va devenir notre petit domaine. Et on perd notre acuité à entendre la voix de Dieu, on perd notre acuité à voir et à discerner la volonté de Dieu. Et on pourrait s'établir quelque part sans que Dieu nous y veuille. Voilà pourquoi Abraham, Isaac et Jacob vont continuer à vivre toute leur vie dans des tentes en se disant il y a encore autre chose vers lesquelles Dieu nous appelle. Et dernier point, il dit ils attendaient donc la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il savait que tout ce qu'il bâtissait ici était fantastique, était peut-être merveilleux, était peut-être béni, mais il savait que leur bénédiction ultime, ce qu'ils attendaient et ce qu'ils aspiraient, ce vers quoi ils aspiraient, se trouvait de l'autre côté de l'éternité. Donc en septième point pour nous, c'est l'attente des bénédictions célestes. Dieu peut nous récompenser ici-bas sur terre, mais notre récompense ultime se trouve dans l'éternité. Alors, quels sont les sept points qu'on a vus ce matin? Notre départ vers l'exécution de la foi va demander de la foi, en premier point, de l'obéissance, en deuxième point. En troisième point, va demander effectivement un départ actif ou un départ réel où on quitte notre zone de confort, nos habitudes, pour aller là et comme le Seigneur nous dit d'aller. Quatrième point, on a un héritage qui nous est promis. Donc Dieu ne va pas nous faire défaut, Dieu va effectivement bénir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Mais on se destine en cinquième point vers une terre inconnue. On n'est pas obligé de connaître tous les détails du chemin et même les détails de la destination. Nous faisons confiance à Dieu. Sixième point, on s'établit quelque part en terre étrangère, sachant que ce n'est pas le point ultime. Je n'arrive pas à un endroit en me disant « ça termine le périple ». Je suis toujours à l'écoute de la voix de Dieu en me disant « si le Seigneur me demande d'aller plus loin, d'avancer encore quelques kilomètres, je vais encore avancer ». Voilà pourquoi des tentes et non pas des maisons bâties en pierre. Et enfin, septième point, en attente des bénédictions qui arrivent de l'autre côté de l'éternité, de l'autre côté de notre vie plutôt, qui arrivent dans l'éternité. Ces bénédictions sont plus importantes, ces bénédictions sont primordiales comparativement à celles qu'on retrouve ici-bas sur Terre. J'aimerais juste terminer avec une mise en garde. Certains, très souvent, lorsque... je cherche juste un verset. Voilà. Certains, lorsqu'ils voient l'histoire d'Abraham, et on me l'a déjà régulièrement utilisé lorsqu'on venait me voir pour me dire « Pasteur, je change d'église », alors je leur demandais « Mais comment tu arrives à justifier ça bibliquement ?» On me disait « Ben, je me sens un peu comme Abraham où Dieu me dit de partir ». Je ne sais pas où je m'en vais, mais Dieu me dit de quitter l'Église pour aller ailleurs. Soyons clairs, le passage d'Abraham ne parle pas de ça. Pour une raison toute simple. Dans le passage des héros de la foi, au chapitre 11, on nous parle du départ d'Abraham, mais dans le chapitre précédent, donc avant qu'on nous parle de la vocation d'Abraham et du départ d'Abraham, au chapitre 10, le verset 25, « N'abandonnons pas, Hébreux 10, 25, « n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc ici, on est en train de dire à ces chrétiens d'origine hébraïque à qui s'adressait ce livre primordialement, et ça fait juste 40, 50 ou 60 ans que l'Église a commencé, on est en train de leur dire « Hey, n'abandonnez pas votre assemblée », et le terme « assemblée » parle d'Église locale. Donc, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains. Et juste après, on nous parle d'Abraham qui quitte son territoire pour aller ailleurs. Abraham rentrait dans un ministère. Abraham débutait une nation. Abraham n'allait pas se former ailleurs. Abraham n'allait pas continuer sa vie de croyant ailleurs. Abraham marquait un départ, un commencement. Donc ne prenons pas le passage d'Abraham comme étant un aval de la part de Dieu pour quitter notre assemblée. Quelques phrases avant qu'on ne parle d'Abraham, l'auteur aux Hébreux, qu'on croit pour la plupart être Paul, va dire « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. » Donc, notre assemblée locale, nous devons y être fidèles. Tu veux trouver une raison pour quitter une église, tu peux en trouver. Ne le justifie pas par le passage d'Abraham, parce que ça n'a aucun lien avec cela. Je vous dirais qu'à part des raisons majeures, importantes, comme un départ vers le ministère, comme le commencement d'un ministère, je pense qu'il y a très peu de raisons de quitter une église. Si ton église enseigne effectivement la vérité, Si ton Église est dirigée par des hommes, par des serviteurs, des servantes qui craignent effectivement Dieu, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas qu'ils ont toute la révélation, mais si ce sont des hommes effectivement qui craignent Dieu, qui mènent une vie qui se veut digne de mention, qui se veut respectable selon les principes même de la Bible, est-ce qu'ils sont parfaits? Non, ils ne le seront que là-haut, comme toi, tu n'es toujours pas parfait non plus. Mais s'ils n'enfreignent pas les règles de Dieu au niveau de l'enseignement théologique, au niveau de la pratique ministérielle, au niveau du témoignage qu'on rend d'eux, il n'y a aucune raison pour que tu quittes ton Église. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. Ça, c'était juste la partie, la conclusion dans laquelle on mettait un petit bémol. Parce que ce passage du départ et de la vocation d'Abraham, on me l'a trop sorti à des sources différentes, tout simplement pour justifier un départ d'une église. Ça ne parle pas de cela. Voilà, c'était notre parole pour aujourd'hui. Demain, on va voir l'exécution du mandat. On a vu donc l'émission du mandat, l'appel de Dieu. On a vu la préparation à l'exécution du mandat. Aujourd'hui, on a parlé du départ vers l'exécution du mandat. Et demain, on parlera de façon plus précise de comment on accomplit effectivement le mandat de Dieu. Alors, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tes instructions. Merci, Seigneur, de façonner nos cœurs, de les garder malléables dans ta main, de les hydrater par ces sources d'eau qui viennent de toi, afin que nous ne nous asséchions point et que nous restions, Seigneur, flexibles, transformables entre tes mains. Je bénis ma sœur ce matin, je bénis mon frère ce matin. Peut-être que certains d'entre eux sont dans des périodes de recherche de ta volonté, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à leur implication dans l'Église, par rapport à comment adapter leur fonctionnement, leur service au sein de l'Église dans cette période-ci de la COVID. Merci Seigneur de nous instruire tous et chacun. Merci de nous parler. Merci de prendre même ce temps, Seigneur, où on vit dans un contexte différent de ton Église pour nous enseigner, pour nous éduquer, nous permettre, Seigneur, d'être, malgré les circonstances et les situations, des serviteurs qui te sont utiles et profitables pour l'avancement de ton royaume. Alors, je bénis ma sœur, je bénis mon frère, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, juste saluer quelques personnes qui se sont ajoutées depuis tout à l'heure. Je remonte. Bonjour à Tatiana, bonjour à Daniel Le, parce qu'il y a aussi Daniel masculin, mais là c'est Daniel féminin, Daniel Long. Bonjour Daniel, bon matin à vous, bonjour à Nadia, à son époux, bonjour à Josh, un gros câlin à Josh. Bonjour à Daniel, cette fois-ci sans le à la fin, donc Daniel Lopez, que Dieu te bénisse Daniel. Bonjour à la sœur Teresa, bonjour au frère Ramon. Bonjour à la sœur Anna, au frère Carlos. Bonjour à Suze. Bonjour à Marie Huguette. Bonjour à Tina et à Christophe et la petite famille. Bonjour à Rosie. Qui d'autre? Bonjour à Sylvie. Mais je pense que je l'ai déjà salué tout à l'heure, Sylvie. Mais re-salue. Et je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, sur ce... ce soir, donc on est mercredi, ce soir, étude biblique avec le pasteur Sergio. Donc, ça va être diffusé à partir de 19h, toujours sur les canaux habituels de l'Église. Donc, on vous invite à être là. Une série sur servir Dieu en temps de défi, tout à fait appropriée encore aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, cherchez la face de Dieu. Prenez de bonnes décisions à son égard et que le Seigneur puisse vous guider en toutes choses. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.